Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée mercredi 3 mars, notamment par l'audience générale du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Éthiopie, au Burkina Faso et au Sénégal, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Au cours de l'audience générale qu'il a tenue mercredi matin dans la bibliothèque du Palais apostolique, le pape a centré sa catéchèse sur la prière, montrant comment, grâce à Jésus-Christ, la prière nous ouvre à la Trinité, à la Mère immense de Dieu, amour. François a fait remarquer que nous ne savons pas, par nous-mêmes, prier comme il faut, et c'est Jésus qui nous introduit dans la relation avec Dieu. Toutes les prières ne sont pas égales et toutes ne sont pas appropriées, a noté l'évêque de Rome, faisant remarquer que la Bible elle-même atteste du mauvais résultat de nombreuses prières qui sont repoussées. Dieu, a poursuivi le Saint-Père, regarde les mains de celui qui prie pour les rendre pures. Il ne faut pas les laver, mais il faut plutôt s'abstenir de mauvaises actions. Nous n'aurions jamais eu le courage de croire à un Dieu qui aime l'homme si nous n'avions pas connu Jésus, a souligné le pape. C'est le scandale que nous trouvons inscrit dans la parabole du Père miséricordieux ou dans celle du pasteur qui va à la recherche de la brebis perdue, a-t-il noté. Jésus nous raconte ainsi à travers sa vie dans quelle mesure Dieu est Père. Personne n'est Père comme lui. Nous imaginons avec difficulté et de très loin l'amour dont la très sainte Trinité est riche et quelle immensité de bienveillance réciproque existe entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, a exhorté le pape. François a poursuivi sa catéchèse, faisant remarquer qu'il nous était surtout impossible de croire que cet amour divin se serait dilaté en abordant sur notre rivage humain. Nous sommes le terme d'un amour qui n'a pas d'égal sur la terre. Le catéchisme explique « La sainte humanité de Jésus est donc le chemin par lequel l'Esprit-Saint nous apprend à prier Dieu notre Père. C'est la grâce de notre foi, a-t-il souligné. Nous ne pouvions vraiment pas espérer de plus haute vocation. L'humanité de Jésus a rendu la vie de la Trinité elle-même disponible pour nous. » Et comme d'habitude, le pape a salué les différents groupes linguistiques et aux pèlerins francophones, il a dit.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese.
Je salue cordialement les personnes de langue française. Poursuivant notre chemin de carême, prenons chaque jour le temps d'une prière plus longue et plus confiante, conscient que Dieu est un Père qui nous écoute toujours et attend notre retour. Que Dieu vous bénisse.
Dio vi benedica.
À l'issue de l'audience générale, le pape a réitéré son souhait exprimé il y a un mois à propos de Myanmar, priant pour que le chemin vers la démocratie pris ces dernières années dans ce pays puisse être repris par le geste concret de la libération des différents dirigeants politiques emprisonnés. Le Saint-Père a également appelé la communauté internationale à veiller à ce que les aspirations du peuple du Myanmar ne soit pas étouffé par la violence. François prie pour que les jeunes de ce pays aient l'espoir d'un avenir où la haine et l'injustice feront place à la rencontre et à la réconciliation. En outre, le pape a demandé aux fidèles chrétiens d'accompagner dans la prière son voyage apostolique de 3 jours qu'il fera en Irak afin qu'il se déroule de la meilleure façon possible et porte les fruits espérés. Le peuple irakien nous attend, a déclaré le Saint-Père. Il attendait Jean-Paul II, à qui on a interdit de partir. Nous ne pouvons pas, a-t-il souligné, décevoir un peuple pour la seconde fois. Le pape a exprimé mercredi sa joie et sa gratitude pour la traduction de sa lettre encyclique Fratelli Tutti en russe, traduction faite par le Forum international musulman de la Fédération de Russie. Tout en suggérant sa lecture aux hommes et aux femmes de bonne volonté Le Saint-Père pense que la réflexion et le dialogue sur cette encyclique peuvent être utiles non seulement à la Fédération de Russie où le dialogue entre chrétiens et musulmans est appelé à se développer, mais aussi à la famille humaine dans son ensemble. L'évêque de Rome se dit également convaincu qu'une discussion ouverte et sincère sur les thèmes de la fraternité peut favoriser le dialogue entre les religions. François souhaite enfin à tous les lecteurs russes une fructueuse étude de ce texte et leur demande d'en tirer profit dans leur vie personnelle et sociale. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé mercredi nonce apostolique en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein, Monseigneur Martin Krebs, qui était jusqu'ici nonce apostolique en Uruguay. Toujours mercredi, le pape a nommé évêque de Queenstown en Afrique du Sud, le père Paul Scipio Panka, jusqu'ici administrateur diocésain du même diocèse. Monseigneur Paul Scipio Panka est né le 15 juin 1955 à Nkosa, dans le diocèse de Queenstown. En 1979, il est entré dans la Société de l'Apostolat catholique, terminant son officiat en Allemagne où il a fait ses premiers vœux le 11 octobre 1982. Il a été ordonné prêtre le 5 juillet 1986. Par ailleurs, François a nommé évêque de Kimberley en Afrique du Sud, Monseigneur Duncan Theodore Tsoke. Monseigneur Tsoke était jusqu'à cette nomination auxiliaire de l'archidiocèse de Johannesburg. En République démocratique du Congo, l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa, édition 2021, s'est réunie mardi en session ordinaire sous le signe de la confiance en Dieu et de la confiance mutuelle pour un travail pastoral collégial et efficace. Dans son adresse de bienvenue, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a fait savoir que l'avantage de ces assises était de promouvoir l'esprit de communion, de collégialité et de fraternité entre les évêques de la province épiscopale de Kinshasa. Par ces assises, a-t-il ajouté, nous nous mettons ensemble pour servir l'homme dont le bien-être est au cœur des préoccupations de toute l'Église. L'archevêque de Kinshasa a rappelé les questions qui focaliseront leur attention pastorale, notamment la problématique des subsides ordinaires, fruit de la solidarité universelle, les défis relatifs au dialogue interreligieux et à l'œcuménisme, la prise en charge du personnel ecclésiastique au regard de l'explosion démographique et de la précarité socio-économique du pays. Notre correspondant au Sénégal nous rend compte du chapitre provincial des missionnaires du Sacré-Cœur en Afrique francophone.
Les missionnaires du Sacré-Cœur en Afrique francophone ont débuté leur chapitre provincial ce lundi 1er mars. Cette assemblée triennale a lieu dans la communauté des filles du Saint-Cœur de Marie à Ngazobile, dans l'archidiocèse de Dakar, et durera jusqu'au 11 mars. Ils sont une vingtaine de capitulaires venus du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Belgique, de l'Italie, de l'Afrique du Sud et du Sénégal. Le supérieur des missionnaires du Sacré-Cœur en Afrique francophone, le père Yvon César Banakissa, évoque les défis auxquels leur congrégation est confrontée.
C'est d'abord le défi de la mission, le défi de l'internationalité dans notre mission et le défi de l'unité. Voilà pourquoi le thème de ce chapitre, nous l'avons intitulé comme suit, « Missionnaires du Sacré-Cœur, demain en Afrique, mission, internationalité et unité ». Nous voulons tout simplement répondre à la vocation de l'Église et surtout donner corps à la devise de notre fondateur qui a voulu que soit aimé le Sacré-Cœur de Jésus.
Le père Banakissa sollicite la prière des fidèles chrétiens pour la réussite de ce chapitre.
Nous nous recommandons aux prières des fidèles que nous sortions de ce chapitre non seulement grandis spirituellement, mais mûrs en tant que missionnaires du Sacré-Cœur. Que ce chapitre soit surtout un moment de grâce.
Clément Awandino Dakar pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins 10 personnes sont mortes mardi dans le crash d'un avion commercial à Pierry, dans l'état sud-soudanais de Jonglei. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de cette région dans un communiqué. Le communiqué précise que le crash s'est produit sur la piste de décollage de la ville de Pierry, une petite localité de cet état de l'est du pays. L'explosion d'une mine artisanale au passage d'une ambulance mardi dans le nord du Burkina Faso a fait 6 morts, dont une femme enceinte et une fillette, selon un nouveau bilan du gouvernement. Un précédent bilan mardi soir d'une source sécuritaire faisait état de 4 morts, dont une femme enceinte décédée dans le véhicule complètement soufflé par l'explosion. Une ambulance du district sanitaire de Djibo a sauté sur une mine entre Gaskindé et Namisigia, dans la région du Sahel. Cet incident survenu alors que l'ambulance était en mission d'évacuation sanitaire sur Ouagadougou a fait 6 morts, a indiqué le porte-parole du gouvernement burkinabé, Ousseni Tamboura. Il s'agit de la patiente, son mari, deux accompagnantes, une fillette et l'ambulancier, a précisé le porte-parole, également ministre de la Communication, qui a condamné fermement cet acte criminel. En Éthiopie, deux traducteurs collaborant pour l'agence France Presse et le Financial Times, un journaliste de la BBC et un journaliste local ont tous été libérés mercredi matin après avoir été détenus ces derniers jours au Tigré dans le nord du pays. L'agence France Presse et le Financial Times avaient obtenu la permission de l'autorité éthiopienne des médias et du ministère de la Paix de se rendre au Tigré, où l'accès des journalistes a été strictement restreint depuis le début des hostilités il y a 4 mois. Mardi, les États-Unis avaient fait part de leurs préoccupations sur le sort des 4 hommes, estimant ces arrestations incompatibles avec l'engagement du gouvernement éthiopien à autoriser l'accès des médias internationaux au Tigré. La Commission éthiopienne des droits de l'homme, un organisme indépendant mais affilié au gouvernement, avait invité les autorités à dévoiler les accusations éventuelles contre les 4 hommes ou bien à les libérer. L'avant-garde d'une unité d'observateurs internationaux, une dizaine de personnes, est arrivée à Tripoli en Libye pour préparer une mission d'observation du cessez-le-feu et vérifier le départ des mercenaires et militaires étrangers déployés dans ce pays. Sa mission de 5 semaines vise à préparer le déploiement ultérieur d'observateurs chargés de surveiller le cessez-le-feu observé depuis l'automne. Le Conseil de sécurité avait ordonné début février au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de déployer en Libye une avant-garde d'observateurs en application de l'accord conclu le 23 octobre entre les belligérants.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Au Sénégal, le député Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition, a été arrêté mercredi à la suite d'incidents survenus sur le trajet du tribunal où il devait être entendu sur des accusations de viol contre lui. « Nous sommes en route pour la section de recherche de la gendarmerie. On lui a notifié son arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée », ont également indiqué ses avocats. Le président français Emmanuel Macron a reconnu mardi au nom de la France que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été torturé et assassiné par l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 1957, un geste d'apaisement recommandé par le rapport de l'historien Benjamin Stora. Ce geste n'est pas un acte isolé, promet le président français. Aucun crime, aucune atrocité commise par quiconque pendant la guerre d'Algérie ne peut être excusé ni occulté. Le président français a lui-même annoncé cette reconnaissance aux petits-enfants d'Ali Boumendjel en les recevant mardi. À l'époque, l'assassinat de l'avocat avait été maquillé en suicide. Au cœur de la bataille d'Alger, il fut arrêté par l'armée française, placé au secret, torturé puis assassiné le 23 mars 1957. Détaille l'Élysée dans un communiqué. En 2000, Paul Ossarès, ancien responsable des services de renseignement à Alger, avoua lui-même avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide. L'opposition nigérienne a dénoncé mercredi l'incarcération de 3 de ses militants après plusieurs jours de garde à vue à la suite des troubles ayant éclaté à Niamey au lendemain de l'élection présidentielle. Le général à la retraite Mumuni Burema, ancien chef d'état-major des armées, a été incarcéré à la prison de Wallam, Abdou Maman à la prison de Kolo et Seydou Tahirou Mayaki, un ex-colonel des douanes, à la prison de Saï. Les députés ont également dénoncé la déportation lundi de l'opposant et ancien premier ministre Ama Amadou à la prison de Filengue, une zone désertique située à 200 km au nord de la capitale Niamey.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur les organisations internationales et la solidarité avec Françoise Niamien.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Union européenne pour une transformation des systèmes agroalimentaires. C'est de cela qu'il est question dans notre magazine consacré aux organisations internationales et la solidarité. Une rencontre virtuelle s'est tenue dans ce sens le 25 février dernier entre le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, M. Kou Dongju, et les ambassadeurs et les représentants permanents de l'Union européenne auprès de la FAO. Cette rencontre leur a permis d'échanger sur les priorités de l'organisation, le partenariat entre la FAO et l'Union européenne et la nécessité de transformer les systèmes agroalimentaires. Monsieur Kou Dongju a remercié les membres de l'Union européenne pour leur collaboration de longue date et leur rôle actif dans l'appui aux travaux de la FAO. Il a souligné que 2021 était une année particulière pour la FAO et l'Union européenne, car c'était il y a 30 ans que l'Union européenne devenait membre de la FAO. C'était la première fois que l'Union européenne, en tant que telle, devenait membre d'une institution des Nations unies, devenant ainsi la première organisation membre de la FAO et demeurée la seule à ce jour. Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a également souligné que l'année 2021 allait marquer un tournant pour la transformation des systèmes agroalimentaires, car elle sera émaillée de nombreuses manifestations d'importance majeure du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires à la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques COP26. Cette année se prête donc à une intensification des actions sur le thème « Une seule santé » et à des mesures de préservation de la biodiversité, a ajouté M. Kou Dongju. Le directeur général a déclaré que la proposition de cadre stratégique de la FAO 2022-2031 visait avant tout à ne laisser personne de côté en envisageant des systèmes agroalimentaires efficaces, durables, inclusifs et résilients qui permettent une amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie, soit les quatre améliorations. Il a souligné que les quatre améliorations reflétaient l'interdépendance des dimensions économiques, sociales et environnementales des systèmes agroalimentaires et apprenait le recours à une approche stratégique et systémique dans toutes les interventions de la FAO. Monsieur Kou a en outre mis en exergue les progrès de l'initiative Main dans la main de la FAO qui suscite aussi l'intérêt croissant du secteur privé, celui-ci étant un partenaire important dans la conquête de l'efficience qui consiste à produire davantage de nourriture avec moins d'intrants et en réduisant les impacts sur l'environnement. Il a également souligné l'importance de la science qui doit servir de socle aux mesures destinées à transformer les systèmes agroalimentaires. Cette rencontre a enregistré la participation des 27 États membres de l'Union européenne. La représentante permanente de l'Union auprès de la FAO, Mme Alexandra Van Kerenburg, a remercié M. Kou pour le travail accompli, avant de réaffirmer l'appui qu'entend continuer d'apporter l'Union européenne aux travaux de la FAO et de faciliter l'organisation dans son rôle dans la transformation des systèmes agroalimentaires. Elle a ajouté que l'heure était venue de poser les fondations de systèmes alimentaires durables et résilients et de donner à la reprise attendue au sortir de la crise de la COVID-19 un caractère écologique et inclusif. Plusieurs ambassadeurs et représentants permanents de l'Union européenne auprès de la FAO ont réitéré leur engagement à continuer d'appuyer les travaux de la FAO en vue de la transformation des systèmes agroalimentaires. Parmi les thèmes mis en avant, le rôle indispensable de l'Organisme des Nations Unies dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, l'importance des actions de l'Alliance tripartite, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale, destinée à renforcer l'approche Une Santé. L'appui constant de l'Organisation fournie à l'initiative de la Grande Muraille Verte de l'Afrique, l'initiative Main dans la Main et l'efficace programme FAO d'intervention et de redressement dans le contexte de la COVID-19.
Donatien Niembombala présente la rubrique sur l'éducation.
Ouvrons notre rubrique sur l'éducation avec les dévoilements mercredi de l'UNICEF de sa classe pandémique au siège des Nations Unies à New York pour attirer l'attention sur la nécessité pour le gouvernement de donner la priorité à la réouverture des écoles. Il s'agit d'un rapport d'analyse sur la fermeture d'écoles à travers le monde. Il est noté dans ce rapport que les écoles de plus de 168 millions d'enfants dans le monde ont été complètement fermées pendant presque une année entière en raison de la COVID-19. En outre, environ 214 millions d'enfants dans le monde, soit 1 sur 7, ont manqué plus de 3/4 de leur apprentissage en personne. Ce rapport note en outre que 14 pays dans le monde sont restés largement fermés entre mars 2020 et février 2021. Les deux tiers de ces pays se trouvent en Amérique latine et dans les Caraïbes, ce qui touche près des 98 millions d'écoliers. Parmi ces 14 pays, le Panama est celui qui a fermé le plus grand nombre d'écoles, suivi par le Salvador, le Bangladesh et la Bolivie. Les fermetures d'écoles ont des conséquences dévastatrices sur l'apprentissage et le bien-être des enfants. Les enfants les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas accès à l'enseignement à distance, courent un risque accru de ne jamais retourner en classe, voire d'être contraints au mariage ou au travail des enfants. Selon les dernières données de l'UNESCO, plus de 888 millions d'enfants dans le monde continuent à être confrontés à des interruptions de leur éducation en raison de fermetures totales ou partielles d'écoles. La majorité des écoliers du monde entier comptent sur leur école comme un lieu où ils peuvent interagir avec leurs camarades, chercher un soutien, accéder à des services de santé et des vaccinations et à un repas nutritif. Plus les écoles restent fermées longtemps, plus les enfants sont coupés de ces éléments essentiels de l'enfance. Pour attirer l'attention sur la situation d'urgence dans le domaine de l'éducation et sensibiliser les gouvernements à la nécessité de maintenir les écoles ouvertes ou d'en faire une priorité dans le plan des réouvertures, l'UNICEF a dévoilé mercredi la salle de classe pandémique, un modèle des salles de classe composé des 168 pupitres vides, chaque pupitre représentant le million d'enfants vivant dans des pays où les écoles ont été presque entièrement fermées. Un rappel solennel des salles de classe qui restent vides aux quatre coins du monde. Au Nigeria, des centaines d'écolières ont été enlevées au cours de ces dernières semaines. À ce jour, il y a des établissements qui ont fermé afin de garantir la sécurité des élèves. C'est le cas du lycée Djanjebe où 313 écolières ont été enlevées. Elles ont heureusement été libérées il y a quelques jours, selon les autorités nigérianes. Sans éducation, l'avenir de la jeune génération est maintenant menacé. Les autorités scolaires craignent que les parents ne déscolarisent leurs enfants. Le Gabon et l'UNESCO célébreront ce 4 mars l'édition 2021 de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable avec la participation des ingénieurs et des élèves ingénieurs. Au-delà de la célébration, la manifestation permettra de lancer les jalons d'un futur programme d'appui de l'UNESCO au Gabon visant à promouvoir et à développer les sciences de l'ingénierie dans le pays. Proclamée en 2019, la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable vise à sensibiliser les États et les populations au rôle de l'ingénierie dans la vie moderne qui est essentiel, par exemple pour atténuer les effets du changement climatique et favoriser le développement durable, en particulier en Afrique et dans les petits États insulaires en développement ou PID. Cette célébration de l'édition 2021 au Gabon prévoit plusieurs sessions de discussion autour du thème de l'année « Bâtir un monde en bonne santé, l'ingénierie pour une planète saine », ainsi qu'un concours de maquettes de projets d'ingénierie des élèves ingénieurs. En Côte d'Ivoire, comme dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, plus de la moitié des élèves débutent le secondaire sans savoir lire ni écrire. Avec une démographie galopante, les besoins en enseignants sont énormes, et tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés ou associatifs, sont les bienvenus. La mission laïque française, une association conventionnée par les ministères français de l'éducation nationale et des affaires étrangères, vient d'inaugurer à Abidjan un centre de développement professionnel CDP qui doit former en 5 ans plus de 5000 enseignants de 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone. L'école normale supérieure de la Côte d'Ivoire ne forme que 5000 enseignants par an, ce qui est très insuffisant pour répondre aux besoins. Parrainée par la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et financée en partie par l'Agence française de développement, ce centre devra répondre aux énormes besoins du système éducatif.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jésus Christus.